10 ans déjà, qu'est-ce que ça passe vite. Pour autant, il y a un état qui n'a pas perdu le nord, et qui connaît ses traditions. Il s'agit de la Californie. Ces vrais bonhommes de station-service de l'ouest de l'Amérique connaissent leurs lois. Il est absolument interdit de tirer avec un fusil sur quoi que ce soit depuis un véhicule, sauf bien évidemment s'il s'agit d'une baleine. Courage mesdames, il suffit de plonger, ces gars-là ne savent certainement pas nager. Sans parler de natation, malheureusement, Nina Lorivin nous sort tout de même sa revue de presse sportive, qui n'est pas avare, en événements.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette revue de presse sportive du mois d'avril 2023. Ce mois-ci, le cyclisme est mis à l'honneur avec le Tour de Flandre, qui s'est déroulé le 2 avril et a été remporté chez les hommes par Pogacar. La course est finie par un magnifique sprint où Van Der Poel prend la deuxième place et Peterson la troisième. Une course éprouvante et finie en beauté. Toujours en cyclisme, la mythique course surnommée l'Enfer du Nord, et oui, je parle du Paris-Roubaix, s'est déroulée le 8 avril. Cette course a été remportée par Van Der Poel, suivie de Philipsen et en troisième position, Wout Van Aert. Chez les femmes, pour sa troisième édition, victoire de Alison Jackson, suivie de Katia Ragusa et en troisième position, Marthe Truyen. On quitte le cyclisme et on passe à la course à pied avec le Marathon de Paris qui a eu lieu le 2 avril. Victoire chez les hommes de Abesh Ayana et chez les femmes de Elena Kipro. Un beau marathon, de belles performances et un cadre magnifique, la capitale. Fini le bitume, on passe au gazon avec l'US Master de golf à Augusta. Il a eu lieu du 6 au 9 avril. C'est le premier grand championnat de golf homme de 2023 et est remporté par John Rahm avec 4 coups d'avance. Pour le sport automobile, le 16 avril 2023 s'est déroulé le MotoGP d'Amérique, une étape du championnat du monde de MotoGP. Victoire de Rins, suivie de Marini et en troisième position un Français, Quartararo. Une belle course en 20 tours. C'est fini pour cette rubrique. Le mois prochain, on parlera des mondiaux de judo qui se déroulent du 7 au 13 mai et de plein d'autres événements. En attendant, suivez le sport et au mois prochain.
Et tout de suite après sa revue de presse, Nina Lorivin revient avec sa chronique musicale du mois d'avril.
Bonjour et bienvenue pour cette chronique musicale. On va parler de 3 albums sortis entre mi-mars et début avril. 12 titres, 50 minutes, on parle d'un des albums les plus attendus de ces dernières années. Memento Mori de Depeche Mode. Un album écrit avant la mort d'Andy Fletcher, un membre du groupe. L'ambiance est sombre, tragique et marquée par la nostalgie. Des clins d'œil sonores à leurs anciens morceaux de 1980 sont présents, notamment dans le son Never Let Me Go, référence au morceau Never Let Me Down. L'ambiance tragique et sombre se ressent dans chaque morceau, et le titre de l'album, Memento Mori, Souviens-toi que tu vas mourir, annonce la couleur. Après leur tournée mondiale, notamment passée par le Hellfest, Metallica revient avec un nouvel album, 72 Seasons, sorti le 14 avril. Cet album était très attendu par les fans de métal et le groupe tenait à sa sortie en vinyle car ils ont acheté leur propre usine de pressage pour esquiver les retards et les ruptures de stock qui touchent cette industrie. Les morceaux de cet album sont brutales, épiques et ne laissent pas de place aux ballades que l'on pouvait retrouver dans l'album précédent. Le même jour, l'EP de PLK sortait, 2069. un EP de rap collaboratif car certains fans ont pu influencer sa création contre rémunération. 2069 représente le temps passé avec ses fans pour concevoir cet EP. Des morceaux calmes, PLK quitte l'ado énervé pour passer à l'homme mature mais n'oublie pas ses rimes percutantes. Et voilà, on en a fini pour cette rubrique musicale. Au mois prochain.
Avant de terminer cette émission, que nous vous remercions d'avoir écouté jusqu'ici, il nous faut encore vous présenter la chronique culturelle de ce mois-ci, consacrée au film Icom Icar. L'art nous permet de nous exprimer et de retranscrire des émotions, mais attention à ne pas être trop ému devant la Tour Eiffel. En effet, il est interdit de photographier la Tour Eiffel de nuit. Les 20 000 lumières qui composent son éclairage sont considérées comme une œuvre artistique, et comme toute œuvre artistique, elle est protégée par des droits d'auteur. Si la photo reste dans le cadre privé, il n'y a aucun problème. En revanche, si elle est partagée ou utilisée pour un usage commercial, cela peut engendrer des poursuites contre l'auteur. Gare à vous! En décembre 1979 sort Icom Icar, film français de Henri Verneuil entre intrigues policières et réflexions psychanalytiques, véritable thriller politique mêlant assassinats, complots gouvernementaux et corruption. Sous la musique d'Ennio Morricone et le regard perçant d'Yves Montand, le film se construit comme une course dangereuse vers la vérité dont peu ressortiront indemnes. Alors que Marc Jarry, jeune président avant-gardiste et progressiste, vient d'être réélu dans un pays occidental fictif, il est assassiné par un sniper durant l'une de ses parades en décapotable. Une commission d'enquête est instituée, la commission Heinegger, qui conclut à un assassinat mené par folie avec préméditation par le jeune Karl-Erik Daslow, assassin qui se serait suicidé à la suite de l'acte puisqu'on l'a retrouvé mort, seul, dans la cabine d'un ascenseur qui descendait, revolver à la main. Cependant, l'un des procureurs s'oppose aux conclusions de cette affaire.
Je suis profondément désolé, messieurs, mais je ne peux pas signer ce rapport.
Décidé à reprendre l'enquête depuis le début, le procureur du nom d'Henri Volney s'engage dans l'affaire la plus tumultueuse et la plus taboue de l'appareil d'État, l'affaire Kenneth, l'affaire Jarry.
Nous étions sincères quand nous disions « nous voulons la vérité et toute la vérité ». Mais au fond, nous-mêmes, nous espérions que cette vérité-là serait celle que nous souhaitions. Eh bien, à force de la souhaiter, nous avons fini par l'avoir. Une bonne petite vérité bien rassurante, qui ne fait pas de vagues, n'éclabousse personne. Une vérité qui écarte les sales rumeurs, dissipe les mystères et garde intacte notre image de marque.
Car oui, vous l'aurez bien compris, le scénario de Icom Icar est une fiction reprenant l'une des affaires américaines les plus sensibles, l'affaire Kennedy. Une affaire qui posait déjà d'innombrables questions dans les décennies suivant l'attentat de 1963, mais qui interroge d'autant plus aujourd'hui, sachant que nombre des documents concernant l'affaire n'ont pas encore été déclassifiés par la CIA 60 ans plus tard, de quoi alimenter d'autant plus les nombreuses théories existantes. Les références à l'Amérique sont nombreuses, du contexte général de l'affaire, jusque dans le drapeau ou les nombreux gratte-ciel rappelant Manhattan, la proximité avec le Mexique ou encore la mafia. Mais si le pays est fictif, c'est bien pour généraliser le propos à l'ensemble des pays occidentaux. Les similitudes avec l'affaire sont aussi nombreuses, la commission Heinegger représente assurément la commission Warren en charge de l'affaire Kennedy, le procureur Volney reprend les idées du journaliste Jim Garrison ayant relevé nombre des incohérences liées à l'enquête, et les quelques déclarations du président sont des traductions de certaines phrases de Kennedy, etc., etc.
Top télécinéma. En quelques mots, monsieur le président, votre politique pour les 6 années à venir.
Voyez-vous, Bernard Shaw disait, il y a des gens qui voient les choses comme elles sont et qui se demandent pourquoi. Et puis, il y a des gens qui rêvent les choses comme elles n'ont jamais été et qui se demandent pourquoi pas. J'essaierai d'appartenir à cette deuxième catégorie.
Merci, monsieur le président.
Seulement, le film possède en vérité deux visages, comme l'explique Henri Verneuil lui-même.
D'un côté, une enquête policière devant un meurtre, et quel meurtre ? C'est la mort d'un président. Et puis à un moment donné, cette enquête débouche sur une réflexion, et cette réflexion, c'est la soumission à l'autorité.
Se voulant comme le parfait mix entre spectacle et réflexion, le film marquera grandement par la présence et la mise en scène de l'expérience de Stanley Milgram de l'université de Yale dans le film Professeur David Nagara de l'université de Laillé. Petit calembour anagrammique ici, évidemment. Si l'expérience est exagérée dans le film pour apporter un côté plus spectaculaire et cruel, l'idée de la soumission à l'autorité qui amène l'homme dans ses pires retranchements est ce qui a conduit Henri Verneuil à réaliser ce film. Cette expérience, dans la lignée du livre de Hannah Arendt, décrivant le nazi créateur de la solution finale Eichmann comme un homme sans conviction, sans haine particulière contre les juifs ou les populations exterminées, mais simplement un homme obéissant aux ordres, a motivé Stanley Milgram à expérimenter cette soumission à l'autorité à travers une quarantaine d'expériences servant à tester l'obéissance des hommes. Si l'expérience demeure controversée encore aujourd'hui en raison des conclusions parfois trop hâtives qui ont été véhiculées par les journalistes et Milgram lui-même, des effectifs parfois trop légers utilisés et de la grande variété des chiffres en fonction des expériences, elle demeure encore aujourd'hui l'un des piliers de la psychanalyse et le spectacle de Henri Verneuil l'a en partie fait connaître auprès du grand public francophone.
Oui. Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir ?
En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un état tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable.
Icomicar, c'est un film génial, haletant, marquant, réellement marquant, qu'il est plaisant de voir, mais encore plus de revoir. C'est un grand film qui a marqué une époque et qui est encore aujourd'hui le témoin de deux questions contemporaines, l'intégrité du service d'État et les limites de l'obéissance humaine. C'est un film qui se place effectivement dans son sens le plus littéral dans la théorie du complot, l'hypothèse que l'assassinat de Kennedy soit orchestré par un complot des services secrets. C'est à ce jour l'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, et c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu vous en parler. Et la radio Nautilus, c'est déjà terminé, vous êtes triste moi aussi, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons. Et toujours à l'heure, bien sûr. Pour finir ce podcast radiophonique en beauté, j'aimerais vous conter une petite histoire juridique. Admettons que vous soyez en Alabama, aux États-Unis. Il fait chaud sur la plage, l'air fend vos cheveux d'une manière très stylée, et votre regard saillant et mystérieux en dit long sur vos intentions. Vous voulez manger une glace. Sans attendre, vous vous empressez de vous munir de votre portefeuille. Vous comptez, 1, 2, oui. Vous avez bien les 3,50$ requis pour savourer votre cornetto mancoco. Vous regagnez la plage, sûr de vous, convaincu que désormais la masse croulante des autres baigneurs ou bronzeurs admire l'élégance, la grâce, la prestance que vous incarnez avec votre mancoco à la main. Petit à petit, des hordes de femmes et d'hommes commencent à vous accoster. Vous êtes devenu la star de la plage. Plus rien ne peut vous arrêter. Innocemment, vous rangez votre glace dans la poche arrière thermohydrato-conservo-glacial de votre jean pour soutenir les embrassades qui fusent par centaines. Et derrière vous, sans crier garde, un énorme colosse vous agrippe le bras. Clé de bras, menottes, coup dans les côtes, en moins de 3 secondes, vous êtes à terre. Avec un air triomphant, il déclare « C'est bon les gars, j'ai eu cet enfoiré ». Lorsqu'on vous emmène au poste de police, vous tentez en vain de comprendre ce que vous avez bien pu faire de mal. Dans la panique, vous vous mettez à repenser à ce paquet de Lego Ninjago qui s'était peut-être glissé dans votre poche au hasard d'un détour vers le carrefour de Ghana. Vous vous souvenez de cette soirée de 12 novembre où, avec votre ami Lucas, vous aviez sonné aux portes de la rue Besançon avant de vous enfuir en courant. Arrivé au commissariat, on vous traîne devant le brigadier chef qui, avec une expression de dégoût profond à votre égard, vous déclare. Vous êtes accusé aujourd'hui d'avoir inséré votre cornet de glace dans la poche arrière de votre jean. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Incrédule, déboussolé par la situation, vous n'arrivez qu'à décocher un bref. Le manifeste du Parti communiste de Marx est une œuvre intéressante qui, même si l'on ne partage pas les idées de l'auteur, est importante à étudier tant pour la compréhension des régimes communistes que pour tenter de parvenir à cerner l'idéologie qui fut la plus populaire au monde. C'en est trop. D'un tir de Deagle, le brigadier vous explose la tête pour crime contre l'humanité. Il recevra, 2 ans plus tard, la médaille d'honneur américaine pour service rendu à la nation. Moralité, avant de partir dans un état, apprenez tout de même les lois fondamentales en vogue. Dans le cas de l'Alabama, disposer une glace dans la poche arrière de son pantalon est interdit. Tâchez de vous en souvenir à l'avenir, ou bien à vos risques et périls. La Radio Nautilus, c'est fini pour ce mois-ci, mais toute l'équipe vous salue et espère vous dire à très bientôt. C'était Liel Garcia, Evan Le Chenadec, Owen Langenou, Nathan Touroud, Mathis Joachin, Nina Lanrivain, Gaël Dujonchet, ainsi que moi-même pour Radio Nautilus, la radio du lycée Jules Verne.